Un très bon début de semaine à vous tous, chers amis. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. On va passer la matinée ensemble. On va parler de télétravail en deuxième heure d'émission. Je vais vous demander si vous commencez à trouver que, oui, il y a encore des avantages au télétravail, mais peut-être moins qu'au début ou qu'au milieu de la pandémie, où là, on disait, waouh, c'est une nouvelle façon de travailler qui nous est tombée dessus un peu sans qu'on le souhaite forcément aussi radicalement, parce que on en parle depuis plus de 20 ans du télétravail, mais de là à l'implanter de façon aussi drastique, hein, on s'en souvient, c'est presque du jour au lendemain, sans doute que votre patron vous a demandé de rester à la maison pour continuer de travailler. Aujourd'hui, puis il y a des sondages là, récents qui nous l'indiquent, il y a un certain nombre de Québécois qui commencent à dire, ben oui, au télétravail, mais hâte de retourner au bureau. Alors, vous me le direz si vous trouvez que le télétravail a perdu un petit peu de ses attraits. On aura l'occasion d'en parler, entre autres, avec un psychologue qu'on est très content d'avoir à l'émission, le docteur Nicolas Chevrier. Et bien sûr, vos commentaires là-dessus, vos histoires. Vous me direz comment vous le vivez, ce télétravail, aujourd'hui. En première heure, toutefois, je veux qu'on parle d'un sujet qui me paraissait important. Vendredi, on a commencé à parler beaucoup de vaccins, de campagne de vaccination. Et vous avez été très nombreux à me dire, moi, c'est quand mon tour? Et en particulier des gens qui ont des maladies chroniques, des personnes qui sont immunosupprimées, des gens qui estiment qu'elles devraient faire partie de ces groupes à vacciner en priorité, mais qui ne le sont pas. Et en fin de semaine, j'ai été touchée vraiment par un cri du cœur, carrément, d'un jeune homme qui, avec son frère, est atteint d'une maladie qui fait en sorte qu'il doit avoir des soins qui sont prodigués par ses parents. Ils ne sont pas en résidence, et c'est un peu là que le bas blesse dans leur cas, parce qu'ils étaient en résidence, soit CHSLD ou résidence privée, ils auraient accès à des soins. Mais là, ce sont leurs parents, leur père et leur mère, qui s'occupent d'eux. C'est formidable comme situation. Ils ont des soins à domicile par leur famille. Mais à cause de ça, ils seront quasiment en queue de cette campagne de vaccination. Ils vont quasiment être les avant-derniers, avant la population en général, à pouvoir être vaccinés. Il est avec moi. Samuel Lachaine est un de ces jeunes. Samuel a 26 ans. Son frère aîné en a 30. Ils sont tous les deux atteints de dystrophie musculaire. Bonjour, Samuel.
Bonjour, ça va bien?
Où ça va et vous?
Ben oui, ça va quand même bien.
Vous arrivez à garder le moral?
Ben oui, c'est certain, mais on vit avec ça, là.
Voilà. Expliquez un peu aux auditeurs, Samuel, la raison pour laquelle vous lancez ce cri du cœur aujourd'hui, parce que vous dites finalement, on est très vulnérable, on est aussi vulnérable que n'importe quelle autre personne qui est en résidence et qui va être vaccinée en priorité.
Ben en fait, dès le départ, notre maladie, la dystrophie musculaire de Duchenne, est une maladie dégénérative des muscles. Donc, ça touche tous les muscles du corps, mais particulièrement les poumons. Donc, c'est certain que le diagnostic de COVID-19 peut éventuellement être très dangereux, peut nous mener même à mourir avec des complications et nous emmener aux soins intensifs. Et ce qui est arrivé, c'est que justement cette semaine, notre mère qui nous prodigue des soins, a contracté la COVID-19 et avait quelques symptômes en début de semaine dernière et s'occupait quand même de nous. Donc, on aurait pu facilement le contracter et finalement, heureusement, on est allé faire passer des tests de dépistage, nous également, pour être certain qu'on ne l'avait pas. Et heureusement, on était négatif, mais ça aurait été catastrophique là, d'avoir eu un résultat positif.
Oui, et là, entre-temps, ben là, depuis, votre mère est confinée au sous-sol pour pas vous contaminer. Donc, c'est votre père qui a l'entièreté de vos soins, si je comprends bien, Samuel?
Oui, exactement. Depuis maintenant, pratiquement une semaine, là, où il s'occupe de nous à temps plein. Donc, doit évidemment arrêter de travailler pour s'occuper de nous dans le jour. Et ça fait beaucoup là à deux personnes à s'occuper en fauteuil roulant. Ouais. C'est certain.
Vous aimeriez être vacciné en priorité parce que là, vous vous trouvez finalement en queue de peloton, là, rang 8 de cette stratégie de priorisation du gouvernement du Québec. Là, on sait que c'est par ordre. Il y a une dizaine de rangs, le dixième rang étant la population adulte qui n'aura pas été vaccinée. Donc, c'est tous les autres, à part ceux là, des autres groupes. On sait que les prioritaires, ce sont les personnes vulnérables en perte d'autonomie qui résident en CHSLD ou en ressources intermédiaires. Le rang 2 sont les travailleurs du réseau de la santé en contact avec des usagers. Après ça, c'est encore une fois les personnes autonomes, celles-là qui sont en résidence privée. Vous estimez que vous devriez être vacciné presque en même temps que c'est... À la rigueur, en rang 3 plutôt qu'en rang 8, ça vous conviendrait?
Ce qui arrive, c'est ce qu'on ne comprend pas, c'est justement qu'il y a des gens qui ont la même maladie que nous, qui sont en résidence et qui ont eu le vaccin. Donc, malheureusement, en étant chanceux de recevoir des soins de nos parents et d'habiter en résidence, en maison privée, ben on est pénalisé, si on veut, de ne pas avoir le vaccin dans un ordre peut-être qui périterait d'être plus haut quand on pense qu'on pourrait éventuellement, même nous aussi, là, faire remplir le réseau de la santé en ayant des soins peut-être à l'hôpital et même éventuellement en soins intensifs si la COVID s'empire avec nous. Là.
Samuel Lachaine, ce que vous dites, en fait, c'est que le ridicule, c'est que si vous étiez dans un CHSLD, vous seriez déjà vacciné, alors que là, comme vous êtes à la maison, que c'est votre père et votre mère qui vous donnent des soins, bien, vous avez zéro droit au vaccin à court et moyen terme. Là.
Exactement, d'autant plus que mes parents aussi doivent aller travailler. Donc, évidemment, il y a les commissions aussi à faire, etc. Donc, eux ont autant de risques que, par exemple, une infirmière ou quoi que ce soit qui va donner des soins directement dans une résidence. Donc, je pense que rendu là, il y a autant de risques de contracter le virus, que ce soit dans une résidence ou directement dans une maison privée.
Puis vous avez dit tout à l'heure, on fait tellement attention depuis près d'un an. Là, vous êtes confiné à la maison, vous sortez à peu près pas, j'imagine, Samuel?
Non, absolument pas. On ne voit pas personne non plus, évidemment, avec le confinement et tout ça. Et on a tellement peur de le faire rentrer dans la maison. Et malgré tout, le virus a quand même trouvé le moyen de venir jusque chez nous. Là
avec les variants dont on parle de plus en plus, on parle même d'une troisième vague. Mm-hmm. Comment vous voyez les choses, Samuel, les semaines qui s'en viennent ou même les mois? Parce que là, vous êtes en ce moment, là, vous n'allez pas pouvoir vous faire vacciner avant plusieurs mois. Là, si on suit l'ordre de priorisation des groupes à vacciner, vous n'êtes pas dans les prioritaires.
Évidemment, on espérait au moins recevoir un vaccin pour le premier variant dès le départ pour être plus protégé, mais c'est sûr que il va y avoir beaucoup de gestion à garder en tête quand même avec le reste par rapport aux autres variants, mais on reste quand même vigilant avec tout ça là, dans ce dossier-là.
Vous avez des amis avocats qui vous aiment bien puis qui ont même écrit à votre député, Benoît Charrette, pour dénoncer justement cette situation médicale urgente qui vous touche avec votre frère, Gabriel. Est-ce que vous attendez une réponse, je suppose, du ministre Charrette, même si ce n'est pas son dossier la santé, il est plutôt dans l'environnement d'habitude, mais comme c'est votre député, vous espérez qu'il fasse un peu bouger les choses, c'est ça?
Bien, on espère, d'autant plus qu'il est avec la coalition Avenir Québec, donc peut-être qu'il va glisser un petit mot à notre premier ministre, François Legault, mais on espère, oui, que ça puisse peut-être bouger par là, on lâchera pas le morceau jusqu'à temps qu'on puisse avoir une réponse au moins de M. Charrette.
Ouais. Là, comment va votre maman? Parce que vous dites, là, elle est dans le sous-sol, ça fait, à peu près une semaine, elle a eu la COVID. Est-ce qu'elle l'a eu sévère?
Bien, elle a eu quelques symptômes, comme on sait, là, c'est en vague un tout petit peu. Là, aujourd'hui, elle est un petit peu plus fatiguée par rapport au virus, mais tranquillement, elle remonte la pente, là. Mal de gorge, perte d'odorat, mais la mise à part ça, elle remonte la pente tranquillement.
Bon, bien, on va vous souhaiter, Samuel et à votre frère Gabriel, qu'il y ait de l'empathie un peu de la part du gouvernement, parce que si vous saviez, je trouvais que votre cas était intéressant parce qu'il représente tous ces citoyens québécois qui, jusqu'à maintenant, n'ont pas eu beaucoup voix au chapitre. Là. On a très peu parlé des gens qui avaient des maladies autres que la vieillesse, parce que la vieillesse, après ce qu'on en sait, c'est quasiment considéré comme une maladie au Québec. Ça devrait pas, là, mais visiblement, on dirait bien que ça l'est. Et tous ceux qui m'écrivent là, depuis des jours puis qui me disent hey, « Moi, j'ai une maladie dégénérative, je suis immunosupprimée. » Moi, je peux vous le dire, Samuel, je compatis beaucoup parce que y a des greffés autour de moi, les greffés, pareil, prennent des anti-rejets pour pouvoir rester en vie. Toujours, pas de nouvelles du médecin non plus à savoir s'ils vont être considérés comme prioritaires. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui passent entre les craques du plancher, on dirait, Samuel. Ça vous arrive, mais ça arrive à tellement d'autres personnes. Bon, avez-vous l'impression qu'il faut revoir cette liste de priorités au Québec?
Oui, probablement que je pense que ça mérite peut-être de considérer des cas particuliers comme notre situation ou d'autres personnes, comme vous dites, qui vivent avec une maladie qui touche particulièrement les poumons parce que c'est quand même beaucoup de risques pour ces personnes-là. Et puis, justement, on a fait beaucoup, beaucoup de démarches aussi du côté politique. Puis la plupart des gens qui nous ont répondu avec nos courriels qu'on a envoyés, on envoie la balle ailleurs, on s'envoie la balle. Donc, il n'y a personne vraiment qui semble vouloir prendre le dossier en charge ou nous envoyer à la bonne place. C'est ça aussi qui est difficile à comprendre, c'est que il y a trop de chefs, pas d'indiens. Plutôt le contraire, trop d'indiens, pas de chefs vraiment qui s'en occupent. Puis là, nous, on ne sait pas sur quel pied danser, même dans ce dossier-là aussi. Là.
Exactement. Il vaudrait mieux que ça arrive plus tôt que tard. Hein?
Exact, oui, parce qu'il pourrait être trop tard, puis c'est ce qu'on ne souhaite pas.
Qu'est-ce que ça fait de vivre avec cette inquiétude, Samuel?
C'est certain que ça nous range beaucoup à l'intérieur, de toujours se demander est-ce qu'on a fait la bonne chose, est-ce qu'on s'est assez lavé les mains, est-ce que le virus était là ou est-ce qu'on a mis notre masque. Donc, c'est toujours de la gestion là, dans notre quotidien, de s'assurer qu'il n'y a pas de virus qui nous touche. Et on pense à la COVID, que ce soit la grippe, mais la COVID est extrêmement dangereuse. Donc, c'est de toujours vivre avec ce stress-là, oui, évidemment.
Ben écoutez, bonne chance, bon courage. On va espérer que le fait qu'on en parle publiquement de votre cas, que ça puisse faire bouger les choses pour vous, pour votre frère Gabriel, pour vos parents là, qui sont vos aidants naturels finalement, qui sont à risque aussi, hein, puisque j'imagine qu'ils ont un certain âge. Et aussi pour tous les gens qui sont un peu oubliés en ce moment, là, qui font pas partie des prioritaires. On sait que derrière chaque patient, il y a une histoire. Merci de nous avoir permis de mieux comprendre la vôtre, Samuel.
Ben, merci beaucoup de m'avoir donné la chance d'en parler.
Merci bien. Samuel Lachaine, 26 ans, avec son frère Gabriel, 30 ans, atteint de dystrophie musculaire. Ils essayent de devenir plus prioritaires qu'ils le sont sur la liste. Il y a une dizaine de groupes à vacciner. Le dixième groupe, c'est le reste de la population adulte. Puis eux, c'est les avant-derniers des groupes prioritaires avant la population. Fait que vous comprenez qu'ils sont pas du tout dans les préoccupations ici des gens de l'Institut national de la santé publique qui priorise les gens. Puis on comprend là, que les personnes vulnérables, en perte d'autonomie, qui résident en CHSLD, avec la crise des CHSLD qu'on a eue, c'est normal que ceux-là soient vaccinés. Les travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux en contact avec eux, c'est sûr. Les personnes qui sont dans des résidences pour personnes aînées aussi. Mais je pense que là, il y a comme une petite... Il faudrait faire comme un petit 3A, là. Puis genre, toute autre personne qui a un cas important comme ça de maladie... dégénérative, chronique ou à risque plus élevé de contracter la COVID. Il me semble que ça m'apparaît assez évident qu'il faut revoir dans ces cas-là le protocole de priorisation. Est-ce que c'est facile à gérer? Pas forcément parce que, mais c'est sûr que c'est pas facile là, ce qu'on vit. Et peut-être que c'est du cas par cas qu'il faudrait voir, mais il doit y avoir un système quand même pour permettre à Samuel d'avoir accès au vaccin. Il veut. Il y a bien du monde qui ne veut pas en ce moment se faire vacciner, mais lui veut avec son frère. Ils veulent, puis pour leur santé, on a compris que c'était une bonne idée. Alors, on va voir comment on peut faire en sorte que d'autres, comme lui, aient droit à cette dose de vaccin. Je sais que vous êtes peut-être, vous aussi, touché directement par ça. Peut-être c'est un de vos proches. N'hésitez pas à nous le dire. Beaucoup de gens m'ont écrit là-dessus, là, puis vendredi, on a effleuré le sujet, puis vous vouliez tellement en parler. Je crois que c'était important d'en parler ce matin. 514-790-9850. Ça, c'est pour nous joindre dans la grande région de Montréal. Un peu partout au Québec, vous faites le 1-866-790-9850. 9850. Dites-moi si vous souhaiteriez faire partie de ces prioritaires, justement. Puis si vous êtes loin, là, en queue de peloton, là, à savoir, moi, mon tour, c'est pas avant 3, 4, 5 mois. Est-ce que c'est un sujet d'inquiétude? On vous donne la parole tout de suite après. On parle de la liste de priorisation des groupes à vacciner. Vous savez que les vaccins seront disponibles graduellement. Là. Il y en a 400 000 qui sont arrivés. Il y en a évidemment qui vont arriver au fur et à mesure de la campagne de vaccination. Et il y a des gens qui vont être, bien sûr, vaccinés avant les autres. Les priorités sont en lien avec la crise qu'on a eue, c'est-à-dire CHSLD, résidence pour personnes âgées. On comprend que les gens âgés sont vaccinés et à risque sont vaccinés avant les autres. Mais là, vous avez entendu tout à l'heure l'histoire de Samuel. Je pense que dans un cas comme ça, il y a une maladie importante qui pourrait, s'il est atteint de COVID, occasionner de gros problèmes. Il pourrait certainement se ramasser. On ne lui souhaite pas, c'est sûr, et lui, c'est sa crainte. Il risque d'être... rapidement traité aux soins intensifs. Bref, c'est une inquiétude. Il faudrait éviter de revenir là où on en était, c'est-à-dire d'avoir des gens, parce qu'on les a oubliés, parce qu'on n'a pas forcément priorisé les bonnes clientèles, qui se ramassent aux soins intensifs. On a avec nous justement le docteur François Marquis, que vous connaissez bien, chef du département de soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Bonjour, docteur Marquis.
Bonjour.
J'aimerais ça vous entendre sur votre réaction par rapport au témoignage de Samuel et de son problème. Là. Il considère qu'il est vraiment oublié par le système. Finalement, il y a quelqu'un qui va pouvoir s'occuper de nous puis nous vacciner. On est aussi à risque que les gens qui sont en CHSLD, finalement.
Bien, quand on annonce une campagne de vaccination puis qu'on fait les étapes puis qu'on fait les groupes, il faut comprendre que les groupes sont faits en fonction d'avoir un grand nombre de pourcentages de population. On ne veut pas se ramasser avec 850 groupes différents. C'est un peu comme quand on annonce le budget fédéral, le budget provincial, on envoie les grandes lignes et on sait qu'à travers ça, il va y avoir des exceptions, des ajustements. Ce que j'entends de ce cas-là, sans avoir tous les détails, c'est qu'on a des individus qui, par leur âge, par leur définition, auraient tendance à être dans un groupe pas à risque, mais qui ont des problèmes de santé qui les rendent particulièrement vulnérables. Les maladies neuromusculaires en font partie hein, pour toutes les maladies respiratoires, toutes les infections respiratoires. Maintenant, ce que moi, je m'attends pour être dans le système, c'est que ces gens-là sont en lien avec leur médecin et moi, je m'attendrais à ce que leur médecin soit un peu les champions de ces gens-là, dans le sens où moi, quand je suis aux soins intensifs et qu'il manque un médicament pour soigner un patient où je pense qu'il devrait avoir une thérapie différente pour un patient X ou Y, ben c'est un peu ma job d'aller voir ceux qui peuvent me donner accès à ce médicament-là ou à ce traitement-là et de faire un peu la défense ou la publicité de mon patient. Maintenant, c'est dans la grosse machine. Je comprends là, que s'il essayait d'appeler la santé publique ou s'il essayait d'appeler son député, que ça n'a pas nécessairement fonctionné. Je pense que c'est par leur médecin qui devrait passer. Leurs spécialistes connaissent bien leur maladie. Ils devraient être capables, à l'intérieur de leur CIUS, d'être capables, leur CIS ou de leur CIUS, d'être capables de parler aux gens qui s'occupent de la vaccination et de réserver des doses. Je pense pas que c'est tous ces patients-là qui ont des maladies chroniques sévères comme ça, ils sont tous suivis par des médecins. En tout cas, j'imagine 99,9% de ceux-là. Et devraient passer par leurs spécialistes qui, eux, savent qui appeler dans leur CIUS. Parce que le problème, c'est que c'est pas un guichet unique provincial. C'est pas non plus un numéro, un poste qui est dédié dans chacun des CIUS.
Il y a une place à l'adaptation. Ben oui, mais je comprends, François. Le problème ici, c'est que Samuel, et c'est pour ça qu'il y a un couple d'amis avocats qui font pression de leur côté sur le député de leur coin, à Deux-Montagnes, le ministre Charrette, parce qu'ils disent on a fait le tour de tous ceux qu'on connaît qui nous suivent, entre autres son médecin, le référé au CLSC.
Mais là, je pense que c'est le temps. Là, je connais pas leur situation particulière dans ce CIS-là, mais moi, ça serait le moment où, comme médecin, je prendrais le téléphone pour parler à quelqu'un qui est responsable, que ce soit au CLSC, que ce soit à l'hôpital. Je regarde, chez nous, on a fait de la vaccination sur certains sites. Ce qui est problématique avec le vaccin de la COVID, c'est que c'est un vaccin qui est chatouilleux. On peut pas l'envoyer dans des cabinets. On peut pas l'envoyer à toutes sortes d'endroits parce qu'on risque de perdre des doses si on fait ça.
Ah,
c'est normal et c'est nécessaire que ce soit certains endroits qui s'occupent de la vaccination. Maintenant que des patients sur approbation du microbiologiste ou de la personne qui est en charge de la vaccination puissent être changés de groupe, je vois pas en quoi ça posera un problème. Voilà. C'est des listes, là. Et donc, moi, chez moi, ce que moi je ferais pour un de mes patients, c'est que je me mettrais sur le téléphone, puis j'appellerais la personne responsable de la vaccination, puis je dirais, j'ai 5 patients que je veux discuter avec toi, qui devraient être changés de groupe, qui devraient être prioritaires. Mm. Et je sais que chez moi, ça fonctionnerait. Maintenant, dans les autres...
Ça prend-tu un médecin... Est-ce que ça prend, François Marquis, un médecin plus convaincant que la moyenne?
Je pense que ça prend un médecin qui appelle la bonne personne. Et peut-être que le médecin, malheureusement, qui s'occupe de ce monsieur-là ou de ces personnes-là, ne sait pas à qui appeler. Ça se peut, là. Mais dans ce temps-là, il y a tout le temps, dans un hôpital... ils ont un hôpital fort, là. Ils ont une espèce d'hôpital qui est comme le plus gros hôpital régional. J'appellerais la microbiologie là et je poserais la question au microbiologiste de garde. Qui est-ce qui s'occupe de la liste de vaccination? Je peux pas croire que cette personne-là le sait pas. Mm. Je veux dire, c'est comme ça, job, là.
Et mais est-ce que c'est, comme c'est une maladie chronique, là, la dystrophie musculaire de Duchenne, maladie génétique qui provoque donc cette dégénérescence progressive de l'ensemble des muscles de l'organisme, peut-être que le suivi médical, tu sais, c'est comme tellement... C'est le problème des maladies chroniques, ça le dit, comme c'est chronique. Le suivi médical, il est à vie, dans le fond, mais il est comme en deuxième rideau. Il n'est pas aussi intensif ou intense que... C'est une maladie comme là, et tu sais que tu peux la guérir. Dans un cas comme ça, moi, j'ai plus... C'est pas scientifique, ce que je dis. C'est vraiment à l'usage, là, par expérience. Je peux voir que quand tu as une maladie chronique... Tu finis par devenir un habitué du système, puis le système s'habitue à toi. Tu comprends ce que je veux dire, François?
Oui, oui.
Tu deviens comme moins prioritaire. Ben oui, tu vois, là, tout le temps.
Ouais, mais d'un autre côté, c'est très facile à identifier parce que il y a peu de gens qui se promènent dans la nature avec une dystrophie du chêne non diagnostiquée. Donc, les médecins qui s'occupent de ces cliniques-là, parce qu'ils sont souvent effectivement cohortés en clinique, ben il y a pas de défi diagnostic. C'est facile pour un spécialiste de dire, ben ma clinique de Duchenne, là, je les connais, on les appelle toute la gang, on leur organise quelque chose en paquet.
Mais ça devrait.
Quand même pas, c'est une maladie qui est chronique, qui est rare, mais c'est pas une maladie orpheline comme il y en a 3 au Québec, là.
Ouais, non, exactement. Si tu savais, les gens là qui m'écrivent en ce moment, qui me disent merci de parler au moins des maladies chroniques, on est complètement oubliés. Personne ne parle de nous depuis des mois de cette pandémie. Il y a Geneviève là, qui dit que son mari, qui a seulement 41 ans, donc vraiment pas dans les priorités, il est greffé de 2 poumons, du foie. Il y a la fibrose kystique, il fait du diabète également. Il n'est pas du tout dans les prioritaires pour ce vaccin. Il y a lui. Il y a Annie qui est au bout du fil aussi. Bonjour, Annie.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, donc moi, tout simplement, pour exposer ma situation, ma mère a 53 ans et je vis avec mes parents. Ma mère, elle a des troubles chroniques pulmonaires là depuis plus longtemps que je me souviens. Mm-hmm. Et moi, je suis enseignante au secondaire, donc je fais en sorte que je vois près de 120 enfants par jour. Et donc, moi, les seuls moments que je porte pas de masque, c'est quand je vais dormir et dans ma voiture. Donc, ça serait comme on parle de la vaccination. Là, je vis avec ma mère, mais je peux avoir aucun contact avec elle, très peu, par peur de vouloir... je vous en parle, je suis émotive.
Oh mon Dieu, fait que vous portez votre masque à la maison, c'est ça que vous dites?
Oui, je mange à une table différente, entre autres, donc depuis près d'un an.
Oh mon Dieu, ça doit tellement être lourd pour vous, Annie, et pour votre mère aussi. Vous êtes toutes les deux ou il y a d'autres personnes aussi qui vivent avec vous?
Il y a d'autres personnes aussi, mais les autres personnes travaillent de la maison, donc c'est moins pire, là. Ouais.
Et là, vous dites comment ça se fait qu'on n'est pas vacciné parce que ça nous aiderait drôlement, c'est ça, hein?
Exactement.
Ça enlèverait un poids. Est-ce que votre mère est suivie par un médecin? Parce que le docteur Marquis dit très justement, c'est un peu au médecin aussi à faire pression. Hein? Dans ces cas-là, on le sait, ça prend un médecin qui a du torque, qui a de la poigne, et puis qui non n'est pas une réponse.
Oui, mais c'est sûr qu'elle est suivie par un médecin, mais peut-être qu'elle a pas assez de torque, comme vous dites.
Oui. Écoutez, bon courage. J'essaie d'avoir des réponses là, de l'Institut national de santé publique. Ça tombe mal parce qu'en 10 et 11, ils sont tout le temps en meeting quasiment tous les matins. Fait que, bon, faut dire qu'on en a eu des entrevues la semaine dernière, puis il n'y avait pas forcément de réponse non plus vendredi. Mais c'est sûr que cette liste de priorisation doit certainement faire un petit peu plus de place à ce sous-groupe là, de gens à risque qui ont des maladies chroniques pulmonaires ici dans ce cas-ci, on comprend. Et c'est lourd pour Annie, c'est lourd pour toute la famille, imaginez. Là. Imaginez les gens tannés de porter un masque parce qu'ils vont dans un centre d'achat ou magasiner. Quand tu rentres chez toi, là, puis tu peux même pas l'enlever, là, c'est quelque chose. On va s'arrêter ici. Docteur François Marquis est toujours avec nous. On va essayer d'avoir des réponses. On aura la docteure Marie-France Reynaud tout à l'heure qui va nous dire un peu comment ça fonctionne, cette liste de priorisation. Et vos commentaires, bien sûr, n'hésitez pas. Je vous donne la parole ce matin si vous vivez ce qu'Annie vit ou ce que Samuel et son frère vivent. C'est pour vous là, qu'on fait ce sujet-là. N'hésitez pas à me parler de votre situation. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Il y a des politiques aussi, fait que ça peut influencer peut-être des décideurs de dire « Hey, OK, là, il y a peut-être un problème. Peut-être qu'on en a échappé quelques-uns. On va se rattraper. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. » Vous savez, vous connaissez l'adage. 514-790-9850 pour nous joindre. 1-866-790-9850. Et le nombre de messages que je reçois de gens qui ont des maladies chroniques, des maladies pulmonaires, beaucoup de fibrose pulmonaire. Il y a Michel qui me dit là, je vois pas le moment où je vais être vaccinée. En plus, sa conjointe est prof au primaire. Alors, les procédures à la maison, c'est fou, là, tout ce qu'on fait là, pour faire attention. Guillaume est avec nous, justement, un peu comme Samuel, il doit vivre avec la dystrophie musculaire. Bonjour, Guillaume.
Bonjour.
Comment ça se passe pour vous?
Ben moi, ça se passe quand même relativement bien. Malgré que avec tout ce qui se passe, moi l'année dernière, je suis sorti peut-être trois fois.
Ouais, oui. Donc, trois fois pas, depuis un an. Aïe aïe aïe. Ouais.
Oui.
Est-ce que êtes-vous à la maison? Vous êtes à la maison, j'imagine, Guillaume?
Oui, je suis à la maison avec mon épouse. Oui. Donc c'est elle qui s'occupe de moi. Et pour elle, c'est difficile parce que elle veut bien s'occuper, mais elle est consciente
des risques
que ça porte.
Ben oui. Donc vous êtes un peu comme Samuel et Gabriel Lachaine, là. Vous aimeriez pouvoir être vacciné, que votre conjointe étant votre aidante naturelle puisse être vaccinée également. Là, ça vous enlèverait une grande pression, j'imagine, et un stress fou. Là. C'est beaucoup le stress aussi qui doit jouer, là, au-delà du risque de la maladie.
Oui, absolument. Puis tous les gestes qu'on fait, c'est un risque. Même d'aller dans le couloir, moi j'habite dans un condo, même d'aller dans le couloir du condominium, c'est dangereux pour moi. Puis aussi je vis dans un endroit où il y a beaucoup de personnes âgées. Donc c'est comme vous disiez là, tout ouais. à l'heure avec Samuel, quand il y a des gens qui sont dans ma situation dans un CHSLD, il n'y en aurait pas de problème, je serais vacciné.
Voilà,
mais
c'est
à cause
ça.
Que je suis dans ma maison, ben là, OK, je suis numéro 8, numéro 10. C'est pas très juste.
Effectivement. Merci beaucoup, Guillaume. Je pense qu'une fois de plus, c'est un exemple comme quoi au Québec, puis là, je me tourne vers le docteur Marquis parce que je suis sûre que François a une opinion là-dessus. C'est des gens qui sont pénalisés parce qu'ils ont des soins à domicile. Puis ça, c'est un autre exemple, François, du fait qu'au Québec, le soin à domicile... On maîtrise pas ça encore. Hein. On n'est comme pas convaincu que ce soit par là que ça passe. Il faut que toujours que ça passe par le système. C'est ça aussi le problème, une partie du problème?
Bien, les soins à domicile font partie du système, dans le sens où je pense que c'est important. On a vu là, la vulnérabilité des gens quand ils ont plusieurs personnes qui viennent les aider d'un tel état différent. Ou des
alors, je rephrase, François. Les soins à domicile donnés par des proches aidants.
OK, oui. Ça, à partir de si on regarde dans cette catégorie-là, ouais. Oui, effectivement, il y a probablement du travail à faire là-dessus, mais ouais. Une campagne de vaccination, ça demande des orientations fermes, mais de la souplesse dans l'exécution. Je pense que là, les gens ont peur parce qu'ils ne voient pas cette souplesse-là, mais je suis convaincu que si on s'adresse à la santé publique, il va y avoir des mesures, il y a probablement déjà des mesures, puis peut-être que les médecins sont pas au courant de quel endroit il faut qu'ils appellent ouais. pour être capable d'avoir de cette souplesse-là. Peut-être que ce qu'on a, c'est pas un mauvais plan, c'est une communication qui a besoin d'être plus précise. Moi, je sais que comme médecin, j'ai pas reçu de numéro spécial. Appelez à tel endroit si vous avez une clientèle particulière à faire vacciner. Moi, j'ai pas reçu ça. Est-ce que les médecins de famille l'ont reçu? Ça, je ne sais pas. Mais ça serait une belle façon de faire, de donner un numéro. Le but, c'est pas que les gens aient besoin d'appeler pour négocier leur place sur la liste. Mais les gens qui connaissent bien leur dossier médical sont capables aussi de faire la part des choses, puis de dire, parmi tous les patients que je suis, effectivement, cette catégorie-là de personnes devraient avoir repenser leur place dans la liste. Et là, et ça, c'est une question de santé publique. Est-ce que les contacts immédiats, incluant les aidants naturels, iraient, est-ce que ça serait plus des maisonnées qu'on irait vacciner? Donc, tout ça est possible. Maintenant, est-ce que c'est une orientation que la santé publique veut prendre? Ou comme je l'ai dit, peut-être qu'ils l'ont déjà pris, qu'on est juste pas informé.
Mais tu vois,
si c'est le cas, on a besoin de le savoir.
Je voyais là, quand, à la fin de la semaine dernière, là, il y avait le comité fédéral qui est d'ailleurs présidé par la docteure Caroline Coache, à qui on a parlé d'ailleurs ce matin. Là, ma recherchiste, Marie-Josée, lui a parlé parce qu'on voulait avoir un petit peu de clarification là-dessus avant d'aller en onde. Elle est de Sainte-Justine, tu la connais bien. Elle est en charge justement là, du comité fédéral sur les orientations de priorisation de vaccination. Et ils ont un peu réajusté le tir en disant, bon, là, on va rajouter, en plus des travailleurs essentiels de première ligne, là, on va les mettre en deuxième. On va mettre, par exemple, les caissières ou caissiers d'épicerie, les chauffeurs, chauffeuses d'autobus. Puis ces travailleurs essentiels-là vont remplacer en deuxième étape la vaccination les travailleurs de la santé qui ne se trouvent pas en première ligne. T'sais, des fois, t'es dans le système de la santé, mais t'es pas en contact forcément avec des usagers. Donc, ils vont prioriser des gens qui sont en contact avec le plus grand nombre. Puis après ça, ils vont dire, bon, ben, tel. Il y a les policiers aussi, il y a des policiers, des syndicats de policiers qui disent, nous, on devrait être vaccinés en priorité. On est en contact avec toutes sortes de gens.
Ah oui. De tous les premiers répondants. Mais exact. Je pense que l'exemple de la caissière est un excellent exemple parce que c'est une personne qui, habituellement, on s'entend pour la plupart, il y en a beaucoup qui sont très jeunes, que c'est une façon de rentrer sur le marché du travail, donc qui devraient être vaccinés à la fin. Mais comme ils voient un paquet de personnes âgées autonomes qui font leur épicerie, ces personnes-là, si elles sont malades, sont à risque de toucher gravement un autre groupe qui est à risque. Ouais. Donc, c'est pas une mauvaise idée. Donc, cet ajustement-là, on voit qu'il y a une flexibilité, cet ajustement-là pourrait probablement être considéré pour des patients à risque de maladie à cause de leur maladie chronique et leurs aidants naturels. C'est une gymnastique, mais c'est une cible un peu mouvante. Il y a des choses qu'on pense d'emblée. Après ça, on se dit, ah, tiens, on n'avait peut-être pas pensé à l'importance de ce sous-groupe-là et on va l'inclure. Ce plan-là n'a jamais eu la prétention d'être parfait à sa version 1.0. Ouais. Souplesse. Je pense que c'est le mot. C'est le mot à
Mais tu sais, sur les 10 groupes à prioriser, François, quand je lis que le 8e groupe, donc c'est vraiment là, ça va être fin juillet, là, genre. Là. Ce sont les personnes adultes de moins de 60 ans qui ont une maladie chronique ou un problème de santé augmentant le risque de complications de la COVID. Je me dis, attends, là, est-ce qu'ils se sont relus? Parce que si tu lis ça comme ça et qu'ils ont un risque de complications de COVID important, comment se fait qu'ils ne sont pas parmi les prioritaires?
Ça, là, ça peut être... Le problème, c'est que dans ce groupe-là, là, je pense que ce qui parlait, c'était genre les hypertendus, les obèses et les diabétiques. Pas nécessairement les scléroses en plaques, pas nécessairement les Guillain-Barrés, pas nécessairement les dystrophies musculaires. Je pense que dans les groupes, il va y avoir des sous-groupes qui vont se faire à différents endroits. Et là, il faut se rappeler, là, ils ont séparé la population entière de la province en quelques groupes.
Ouais.
C'est caricatural. Et c'est normal que ça soit caricatural. C'est un peu comme quand on sépare les générations. Il y a des gens qui sont tout le temps à cheval sur deux générations puis qui disent ben moi
ouais je comprends mais comme tu le disais très bien toi-même comme médecin spécialiste t'as reçu de mémo qui te dit pour vos patients exceptionnels qui devraient être vaccinés en priorité
oui 1-800
il y a pas de 1-800 vaccine plus vite là tu sais il y a pas ça ouais. Donc
pour l'instant c'est laissé un peu en tout cas de ce que moi j'ai comme information c'est laissé un peu aux médecins individuels, puis honnêtement, Moi, j'ai pas entendu parler de cette ligne-là à 800, mais ça serait certainement une belle idée que dans chaque CIUS ou chaque CIS, qu'on ait une espèce de pipeline pour dire voici le nom de patients particulièrement vulnérables que j'aimerais qu'ils soient considérés pour une vaccination prioritaire.
Voilà.
Et après ça, ils feront une liste avec ça puis ils décideront.
Merci.
Mais c'est de les rendre connus, ça serait une bonne chose.
Merci beaucoup, Dr. François Marquis, service de soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. On va avoir la Dr. Reynaud après la pause qui va nous dire un peu comment ça marche, la priorisation. Là, il y a tellement de gens là, qui m'écrivent. Là, je suis désolée de ne pas pouvoir lire tous vos messages à haute voix dans l'émission. Il y a Pierre qui dit que... Et puis, je pense que sa question représente tellement la question que beaucoup de gens se posent. Il dit, mon époux souffre de bronchoextasie. Moi, j'ai de l'asthme sévère. Quand serons-nous vaccinés? C'est la question qui revient beaucoup ce matin. Les gens avec toutes sortes de maladies chroniques importantes qui se demandent quand est-ce qu'ils vont être priorisés. On en parle tout de suite après. Bonjour, Lucie. Racontez-moi rapidement votre situation.
Ben, bonjour, ça va bien?
Oui, on vous écoute.
Oui, écoute, moi, je suis une femme de 56 ans. J'ai un petit peu d'obésité, maladie d'Addison, donc un système immunitaire un petit peu plus faible. J'habite avec mes parents, mes parents habitent avec moi, puis je travaille dans un centre jardin, donc il y a beaucoup de monde. Au printemps passé, j'ai commencé juste à travailler le 11 de mai, j'étais pas capable. J'étais pas capable mentalement de rentrer dans un lieu public. Un lieu public où il y avait potentiellement des cas qui pouvaient venir dans la pépinière, puis on ne sait pas. C'est pas marqué dans le front à personne, hein. J'ai la COVID, puis j'ai pas de symptômes. Fait que là, je me demande, vu que j'habite avec mes parents, puis j'ai cette maladie-là, pour moi, je me sens bien. J'ai pas de contre-indication pour cette maladie-là.
Mais votre médecin, lui avez-vous posé la question, à savoir est-ce que vous pourriez vous faire vacciner de façon plus prioritaire?
Non, parce que c'est assez difficile de rejoindre son médecin.
Voilà.
J'ai plus d'endocrinologue depuis 4 ans.
Ouais.
Mon médecin de famille qui me soigne.
Ouais, c'est
parce
ça.
Parce que je suis quand même stable dans ma maladie.
Ben voilà, merci Lucie, ça me permet de me tourner vers la docteure Marie-France Reynaud qui est spécialiste en santé publique. Merci de prendre le temps, docteur Reynaud. Tout à l'heure, le docteur Marquis disait ça prend des orientations fermées. Donc on comprend là ces priorisations là puis ces rangs du rang 1 à 10, mais ça prend quand même une souplesse dans l'exécution. Dites-nous un peu comment les gens là qui se demandent moi avec mes maladies chroniques ou bon, est-ce que je peux avoir accès à une façon plus rapide d'être vacciné? Comment ça fonctionne?
Alors, la priorisation des groupes à vacciner a été faite en fonction justement de leur risque de développer la maladie et pas d'autre chose. Alors, si on est dans un groupe qui va être vacciné plus tard, c'est parce que notre probabilité de faire des complications très sévères est moindre que le groupe avant. Et c'est comme ça que le Comité d'immunisation du Québec et le Comité canadien national sur l'immunisation ont fait leur priorité. Et ce qui est particulier avec la COVID-19, c'est que le grand, grand, grand facteur de risque, c'est l'âge. Et même si les gens sont super en forme et tout ça, s'ils sont plus âgés, ils sont vraiment plus à risque que quelqu'un qui a des facteurs de risque et qui est plus jeune. C'est pour ça que la priorisation est faite en fonction de ça. Moi, je suis, c'est mon avis personnel, j'aime beaucoup qu'on ait des priorités qui soient suivi de façon stricte. Parce que il y aurait plusieurs, personnes qui pourraient utiliser leur pouvoir personnel ou pour avoir des dérogations. Tandis que si on suit de façon très stricte et c'est centralisé, il me semble qu'on aura plus d'équité dans l'attribution des vaccins. Puis on voit aux États-Unis où il y a vraiment moyen de passer par-dessus en payant un autre endroit et tout ça, que les priorités vaccinales sont pas.
Ouais. Sont pas respectées. Vous voulez pas que le club des petits amis se vaccine en priorité au détriment des autres, on comprend bien. Mais est-ce qu'il pourrait pas y avoir des sous-groupes qui pourraient se faire vacciner, considérant quand même les maladies importantes avec lesquelles ils vivent?
Ben, ces maladies-là, ils sont quand même moins à risque que les gens qui sont dans la catégorie supérieure.
Mais là, si on est rendu à dire la caissière du supermarché, elle va passer prioritaire en même temps que les gens du CHSLD quasiment. Est-ce que les gens qui ont des maladies pulmonaires chroniques, non?
Non, c'est absolument pas le cas. La caissière du CHSLD du supermarché, elle va passer dans un groupe 9, c'est-à-dire juste avant la population adulte. Et tous ceux qui ont eu des maladies chroniques vont être vaccinés avant elle.
Mais selon ça, c'est au Québec, mais le comité fédéral, présidé par la Dr Quash, recommande qu'on vaccine en priorité les gens comme les chauffeurs d'autobus, les caissières d'épicerie, là, que ces gens-là soient vaccinés de façon prioritaire là, dans les premiers rangs.
En fait, ce sont les provinces qui fixent sur le terrain les priorités de vaccination. Et le comité d'immunisation du Québec a tenu compte là, des considérations amenées par le comité national d'immunisation, mais a pris dès le départ une attitude un peu différente. Par exemple, dans certaines provinces, on vaccinait les travailleurs de la santé avant de vacciner les personnes en CHSLD. Mm. Maintenant, certaines ont vraiment revisé leur façon de faire.
Bien, merci beaucoup, Dr. Marie-France Reynaud, spécialiste en santé publique, professeure de santé publique à l'Université de Montréal. On s'arrête ici, les nouvelles, et on parle de télétravail après.